Les colloques du Collège de France.
Je suis très honorée qu'on m'a invitée à inaugurer cette belle journée avec ce qu'il faut, les origines et les débuts de Jules Aupert. Et on va commencer avec la première communication de Dominique Bourrel, directeur de recherche au CNRS émérite, qui a longtemps œuvré au Centre de recherche française à Jérusalem et qui est un grand spécialiste de l'échange des idées du monde juif, germanique, française, philosophique. Et on va voir ce qu'il a à nous raconter sur de Hambourg à Paris via Babylone. Merci beaucoup.
Monsieur l'administrateur général, mes chers collègues, chers amis, effectivement, de l'endroit d'où je viens, j'avais une pensée pour un grand tyrannologue qui a été en même temps un spécialiste des questions juives et qui était un épigraphiste et un archéologue, qui était Jean Perrault, qui a créé le Centre de recherche français de Jérusalem, que j'ai eu le plaisir de diriger il y a quelques années déjà, mais qui avait commencé en réalité sa carrière à Suse et qui est une personne effectivement à qui, en tout cas des gens de ma génération, doivent beaucoup. Et merci beaucoup de m'avoir invité à parler d'un sujet que j'affectionne, comme vous l'avez dit, qui est la transmission des savoirs dans l'Europe moderne et contemporaine. J'ai eu l'occasion déjà, lors du colloque de Ernest Renan, sur Ernest Renan d'en parler. Et dans le cas de Renan, j'avais examiné effectivement ses rapports avec les Juifs allemands. Pour le dire tout de suite, parce que je ne veux pas vous faire perdre votre temps après, ce qui m'intéresse, c'est la double mémoire qui opère dans la tête de ces savants. C'est une mémoire allemande et une mémoire juive, parfois plus ou moins allemande, plus ou moins juive, c'est un autre problème. Et cette mémoire qui, bien évidemment, opère parmi les contemporains, c'est-à-dire les collègues qui le lisent, qui votent pour lui ou votent contre lui, qui écrivent parfois de manière un peu rageuse, et qui sont des choses qui m'ont toujours passionné. Julius Aupert, on le dit, que beaucoup d'entre vous connaissent d'ailleurs beaucoup mieux que moi, puisque ses publications vont du droit à l'histoire des religions, du sanskrit à l'hébreu, et il fait souvent peur aux historiens et aux interprètes. Heureusement, on a déjà maintenant pas mal d'études assez récentes, dont bien évidemment celle de notre hôte Dominique Charpin, qui, dans son livre sur Ninive, a donné beaucoup de documents et beaucoup de ce qu'on sait sur Aupert. C'est un peu embêtant parce qu'effectivement, les problèmes avec Renan sont des problèmes qui se posent toujours avec les savants français. Et il y en a d'ailleurs dans la salle qui écrivent souvent très bien. Et alors, les collègues qui viennent de Göttingen ou de Berlin ou de Uppsala sont parfois un peu agacés pour voir ce style flamboyant habité par l'au-delà, je pense à Massignon, mais qui parfois simplement n'est pas toujours aussi précis qu'on le voudrait. Il y a un passage du Talmud, d'ailleurs tout à fait extraordinaire, qui dit que le Messie arrivera quand toutes les notes de bas de page, enfin il ne le dit pas comme ça le Talmud, hein, il dit quand tous les auteurs auront, toutes les citations auront retrouvé les auteurs. Et alors Lévinas citait souvent ça pour se moquer un peu de nous qui étions des malades, des notices, des notes de bas de page, etc. Et c'est un peu ce qu'on a à faire, c'est parce que Renan l'a traité de demi-charlatan. Quand même. Donc c'est un peu délicat après quand vous vous croisez dans les couloirs. Même si vous l'avez rappelé, Aupert était quelqu'un de volcanique qui a eu des polémiques, par exemple avec Gobineau, avec Alévi. Enfin, on a l'impression comme ça à chaque fois régulièrement, l'impression que ça l'aide à penser. Et alors, vous retrouvez ça, par exemple, dans les textes de Bernard Assoulier. Alors, les textes convenus, les hommages après la mort de nos auteurs sont souvent très intéressants parce que l'ambiance s'est un peu calmée. J'ai appris à le connaître dans ces assemblées très vivantes où il sema plus d'une fois la tempête, se livrant comme partout et se trahissant tout en entier. Pour l'homme, sa figure était très mobile, sa personnalité très accusée. Ils sont restés très présents à l'esprit de tous. Sa manière d'être et de parler, ses bons et mauvais mots, l'imprévu de ses interruptions heureuses ou malheureuses, tout ce qui, dans sa démarche saccadée ou très affairée, lui avait valu une notoriété, presque une popularité, dont il avait le souci. Fin de citation. Alors, vous trouvez à chaque fois des petites allusions absolument merveilleuses qui nous renseignent quand même un peu sur la psychologie de ces personnes. Né à Hambourg en 1825, il décède à Paris en 1905 lors d'un accident cardiaque, lors d'une séance d'ailleurs de l'Académie des inscriptions, dont il fut, on l'a rappelé, un membre éminent. Il est issu d'une famille juive, et cette fois-ci d'une famille juive de Hambourg, contrairement à Munch dont j'avais parlé, dont on a parlé aussi tout à l'heure. Munch, qui, en vous écoutant, je me suis aperçu, il faut faire attention, les épigraphistes, lui aussi était aveugle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces gens qui ont, depuis l'âge de 15 ans, lu des textes en 4, 5, 6 langues, terminent souvent avec une maladie très, très invalidante. Alors, il vient d'une famille assez traditionnaliste, mais le père était un courtier, donc était un banquier, un commerçant. Alors que la plupart du temps, je vous le dis tout de suite parce que c'est un de mes jardins secrets, la moitié de ces orientalistes européens ont eu un père rabbin. Pourquoi ils ne sont pas restés, eux, rabbins? Parce qu'ils n'avaient pas envie de faire comme leur père, tout simplement, et puis ils ne voulaient pas être rabbins. Mais en revanche, cette culture extraordinaire, qui est en même temps une culture de la lecture qui est propre au monde juif, et d'ailleurs aussi au monde musulman, et cette culture de la philologie allemande, a créé, jusqu'en 1933, au moins jusque-là, un type de savant que vous retrouvez non seulement en France, et pour le dire tout de suite, il y en a plein à l'école pratique des hautes études, il y en a plein à la société asiatique, simplement, nous, j'allais dire les Français, avec nos théories de la laïcité, on n'a pas le droit, j'avais dit ça la dernière fois quand il y a eu ce colloque merveilleux, qui s'appelait « Dieu au Collège de France ». Et donc là, vous ne pouvez pas demander aux gens, on ne le sait pas. On se dit, tiens, il parle 5 langues, il a un nom un peu bizarre, peut-être il est russe, peut-être il vient d'un peu loin. Ou alors un autre s'appelle Klein, dont vous dites, celui-là, on va l'avoir. Pas de chance, c'est simplement un fils de pasteur de Strasbourg. En revanche, forcément, en Allemagne, c'est quelque chose que vous voyez assez rapidement, ne serait-ce que, comme on l'a dit, pour cette génération qui, même avant la révolution avortée de 48, ont déjà trouvé le chemin de la France. Le cas le plus connu, bien évidemment, est celui de Henri Heine, qui est aussi un des premiers à... Mais lui, il s'est converti, ce qui n'est pas le cas de Oppert et ce qui n'est pas le cas de Munch. Donc on a les deux possibilités. Tous ces gens-là commencent souvent par être profs d'allemand. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'ils ont une autre spécialité, et donc on les voit gravir les échelons pour arriver à l'échelon le plus supérieur, qui est celui du Collège de France, comme nous savons bien. Et il a traité d'ailleurs, il est à la source d'une tradition juive allemande d'études de la syriologie, avec les noms bien connus de Landsberger, Oppenheim, qui sont tous les deux nés à Vienne d'ailleurs, sans parler bien sûr de Roman Girschmann, qui a été celui qui a travaillé aussi sur Suze, et bien évidemment Samuel Noah Kramer. Alors je me suis demandé pourquoi ces gens-là faisaient justement de ce type d'études. En réalité, c'était aussi peut-être une manière, je veux pas, non pas de contourner la Bible, mais d'essayer de lire la Bible avec d'autres outils que simplement les outils traditionnels. Et alors j'ai été très étonné, j'ai fait la même remarque que M. Remer, que les annales de philosophie chrétienne sont très preneuses de ce type de texte. Il y a 6 ou 7 professeurs au Collège de France qui enseignent qui donnent régulièrement des articles, alors que d'habitude, ces gens-là se méfient. Non seulement, même avant la querelle du modernisme, se méfie du Collège de France, de l'École pratique des hautes études, comme de la peste, puisque vous savez très bien que le Collège de France a été créé contre la Sorbonne, contre la théologie, pour enseigner précisément l'hébreu et d'autres langues, sans avoir la mainmise de la culture officielle. Alors, on a, ça c'est aussi de nouveau du travail pour l'épigraphie, mais c'est pas cunéiforme, on a un carnet de lui qui est à Caen, probablement grâce à le magistrat qui était là. Voilà. Alors le problème, c'est que c'est pas... Mais même l'allemand peut être très difficile à lire, puisque c'est en ce qu'on appelle en Zitterlin, c'est-à-dire une espèce de gothique comme ça, épouvantable à déchiffrer. Et heureusement, on a quelques collègues qui s'y sont collés, notamment mon ami Michel Espagne, qui a beaucoup travaillé sur toute cette classe de philologues ou de savants juifs allemands à Paris. Il y a un moment fascinant à étudier. Alors il se moque un peu de ce qu'il voit justement quand il va dans une synagogue traditionnelle. Donc c'est pour ça qu'on comprend pourquoi il n'a pas voulu prendre une carrière rabbinique. Quand il va à Francfort, il ne visite même pas le ghetto. Pour lui, il est agacé par ce qu'il voit dans les communautés traditionnelles. Il fait partie, d'ailleurs, je le dirais en conclusion, de ce nouveau judaïsme, de ce judaïsme réformé, qui naît en Allemagne à ce moment-là, et qui essaye de faire quelques améliorations, entre guillemets, et c'est là où ça commence, d'abord liturgique, ensuite théologique, ensuite philosophique, au corpus classique. Et donc c'est intéressant de voir qu'il est, avec ces trois cultures, plus quand même, je pensais que vous l'avez dit, de la Wissenschaft des Judentums, cette science du judaïsme, c'était l'historicisation du judaïsme, c'est-à-dire ces jeunes juifs allemands, à partir des années 20, se sont mis à travailler comme des philologues et des historiens, c'est-à-dire à désacraliser la Bible. Alors, pas de manière directe comme ça et de manière éloquente, mais c'était ça qui était l'enjeu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça a été très vite attaqué. En règle générale, vous savez, ni les mollahs, ni les curés, ni les rabbins, même les philologues, les philosophes et les gens qui sont en dehors de... C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, à chaque fois, on se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il commence à faire? Et puis, ça se termine la plupart du temps assez mal. Et donc, il se bat sur deux fronts, entre l'enthousiasme religieux et l'indifférence. Et il pense que la science va promouvoir l'émancipation des Juifs, non seulement pour lutter contre le numerus clausus, qui touche non seulement les enseignants, mais aussi les étudiants, mais qui peut faire progresser la connaissance. Par exemple, lorsqu'il participe à la constitution d'une association des étudiants juifs, il écrit « Encore une association juive, et qui plus est patriotique à l'université. Je vais m'efforcer, avec toute mon influence, de transformer l'élément religieux, virgule, ou juif, virgule, en élément scientifique. L'aspect juif, s'il est besoin, viendra de lui-même. » Et dans les trois universités qu'il a fréquentées, qui étaient donc Heidelberg, Bonn et Kiel, et un peu d'ailleurs d'après mes souvenirs, l'université de Berlin, il va à chaque fois rencontrer des juifs parce que cette jeune génération qui va à l'université, elle pense que c'est comme ça qu'ils vont arriver à obtenir une rejuvénation et une prise au sérieux du judaïsme. Lui-même d'ailleurs venait d'une famille qui avait été liée avec cela, puisque Eduard Ganz, qui était directement de sa famille, avait lui s'était converti pour avoir une chaire, la succession de Hegel, et ça avait marché. Alors que dans le cas de Heine, ça n'a pas marché. Heine l'a d'ailleurs regretté toute sa vie, et il disait toujours « je suis baptisé, mais pas converti ». Et donc, en réalité, quand vous le lisez avec acribie, vous vous apercevez qu'il a passé sa vie à se demander pourquoi il avait fait ça. Donc, sur ses talents, les talents d'assyriologue, on en parlera beaucoup, notamment dans cette grande expédition scientifique. Et puis, effectivement, ce pari extraordinaire où on les a mis à trois ou quatre ensemble à faire, je pense qu'on va en entendre parler, à donner une traduction d'un même texte. Et on s'est aperçu après, en ouvrant, que finalement, c'était pas si loin les uns des autres, et donc je vous laisse découvrir ça. C'est une histoire tout à fait extraordinaire, c'est assez rare quand même. C'est un homme donc qui est aussi un peu un homme d'appareil. Il est le vice-président du consistoire central des Israélites de France. Il est au comité central de l'Alliance israélite, comme Salomon Monk. Mais Salomon Monk, il signe pas le vendredi à partir de 5 heures. Et donc, on avait un président, il fallait prendre un président prof au Collège de France, ça faisait quand même assez chic. Monk était d'ailleurs un homme absolument délicieux, très savant. Il traduisait de l'arabe, de l'anglais, de l'allemand, bien évidemment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, encore une fois, Renan, ils savent bien à qui ils ont affaire, ces gens-là. Massignon, c'est pareil, même 30 ans après. Ils voient bien que ce sont des produits d'une tradition qu'ils n'ont pas. Et donc, il y a cette espèce d'admiration sans borne, puisqu'ils votent toujours pour ces gens-là, et quand ils n'ont pas de chair pour eux, vous trouverez ça chez Renan, ils distribuent des légions d'honneur. Par exemple, pour ceux qui sont hautes études à la chaire de Talmud, il y en avait un qui était de nouveau, qui s'est présenté à chaque fois, et d'ailleurs, quand on a réintégré Renan dans sa chaire, on a dit, bon, Renan, c'est pas, je vous le fais quand même un peu plus, de manière un peu plus joviale, c'est pas un très bon catholique, mais enfin, on va le reprendre, parce que sinon, on n'aura que des juifs allemands. C'était Derenbourg, ou le père, le fils. Alors c'est à chaque fois la même histoire. Et comme vous savez, c'est pas seulement dans la philologie. Écoutez un peu de Offenbach, et donc pas une seconde on peut penser que le père était un banquier berlinois, tellement c'est parisien et tellement on est ça là-dedans. Donc ça, c'est une opération tout à fait extraordinaire et tout à fait fascinante à suivre. Malheureusement, mes incompétences font que je ne peux pas faire la même recherche avec les sciences dites dures. Mais c'est bien évident que dans les sciences dures, ça a été la même opération. C'est-à-dire qu'on a pris les gens des laboratoires de physique de Berlin, de Kiel, de Göttingen, etc. On les a fait venir à l'Institut Pasteur. Il y a un cas que je connais, en tout cas, on l'a laissé à la cave parce qu'il parlait tellement mal le français que donc il a commencé à apprendre le français dans la cave. Mais il était à la paillasse quand même. Et puis au moment où, ça s'est un peu amélioré, hop, on l'a ressorti. Puis à ce moment-là, on dit, mais c'est un collègue allemand. On a oublié qu'il était juif, ou lui a oublié. Donc c'est très intéressant de suivre, parce que c'est, et je vous le dirai à la fin, je veux pas oublier, c'est pour ça, parce que ça montre que cette France, dont on nous parle souvent du chauvinisme, du côté étroit, etc., a fait preuve là d'une générosité intellectuelle et d'un accueil de ses savants tout à fait extraordinaire. Alors, juste un mot sur cet article, justement, sur Renan et Oppert, c'est évident, parce que cet article qu'il a écrit, il tenait quand même à le faire lui-même. Parce qu'il a dit, c'est quand même, voilà le texte, « Vous plairait-il de communiquer au rédacteur du journal des savants le désir que j'aurais de rendre compte dans ce journal du récent ouvrage de M. Oppert sous les écritures cunéiformes ?» C'est quand même bizarre, parce que normalement, il est soi-disant, sinon contre, du moins peu amène, et de l'autre côté, il demande quand même l'article, et il veut quand même absolument faire le papier, et tout de suite, ce qui est très rare, comme vous le savez, pour les comptes rendus. Je ne crois pas qu'il ait jamais été parlé dans le journal des savants de cette question. L'examen de ses écrits m'occupant depuis longtemps, il me serait possible de remettre mon article dans un très court délai à la commission du journal. Le rédacteur en chef a dû se féliciter, là, en disant quand même, pour une fois, ce qu'il fit, surtout sur le tome 2 de l'expédition, on en parlera bien évidemment tout à l'heure. Est-ce que Renan avait peur de la présence de quelqu'un comme ça ? Cette fois-ci, je parle bien sûr de Oppert, comme il avait redouté un peu la venue de Munch. Donc vous voyez, il y a quand même toujours, peut-être pas de la concurrence, parce que la concurrence, elle était peut-être avec Scheil, où là, j'espère qu'on va les entendre tout à l'heure, il y a des choses absolument extraordinaires, où on dit que le Collège de France va devenir un couvent dominicain, que si, enfin, vous trouverez ça dans le livre de Dominique Charpin, c'est absolument saisissant. Oppert, donc, et c'est un de ses intérêts, il est au confluent de trois mouvements. Celui, donc, des Lumières juives, de la Haskalah, qui a été inauguré par Moïse Mendelssohn, qui est donc le grand-père de Félix, qui est le moment où ces gens-là vont entrer à l'université, vont apprendre le latin, et vont être lecteurs d'hébreu. On voit le cas de Heuschel à Königsberg, où Kant lui-même fait une recommandation, disant on a quand même besoin d'un lecteur d'hébreu, et alors on va prendre un juif. Ce qui, à l'époque, était bien évidemment, surtout dans une université strictement luthérienne comme celle de Königsberg, était quelque chose de tout à fait bizarre. Cette deuxième culture, c'est celle, je l'ai dit, de la science du judaïsme qui vise à historiciser le patrimoine intellectuel juif, notamment par la philologie, c'est-à-dire de dire, vous voyez bien, cette Bible, elle est quand même en grande partie, c'est aujourd'hui une trivialité de dire ça, mais elle est aujourd'hui une grande partie une création des juifs. Et même ce que vous appelez l'Ancien Testament. L'un de mes maîtres, Emmanuel Lévinas, dit toujours il ne faut pas utiliser ce terme d'Ancien Testament parce que ce n'est pas un testament et il n'est pas ancien. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant quand même. Et la troisième culture donc, qui m'a intéressé, c'est ce judaïsme réformé, qui d'ailleurs n'était pas du tout en cours en France, ou beaucoup moins, alors que c'était une grande partie du judaïsme qu'on a retrouvé en Allemagne. Et donc, lui-même, quand il a eu à parler avec, dans les universités qu'il a fréquentées, avec ces jeunes juifs, qui très vite l'ont entouré, effectivement, comme pour Munch, avec les gens avaient une admiration sans borne, et puis avaient un côté heureux, quoi, en disant ben, c'est un de chez nous, quoi. On voit bien qu'on n'est pas tous des schnorreurs, des gens bouclés à cafetan qui sont dans des coins d'université. Et donc, c'est justement à Hambourg qu'était née une partie de cette tradition juive, avec l'œuvre de Gabriel Risser, qui était le premier homme politique juif allemand, d'ailleurs, sans s'être converti, donc, hein, et qui a bataillé dans les différentes instances. Donc ça, c'était une des cultures de Julius Oppert. À ce moment-là, il y a justement à Braunschweig un congrès en 1844, et puis ce judaïsme réformé est fondé à Berlin, où, encore une fois, cette tradition de Hambourg, sur laquelle je voudrais donner encore une petite note. Hambourg, c'est une ville de commerçants. Hein, Altona, Wandsberg, la communauté est d'ailleurs une communauté triple, parce qu'on pouvait profiter d'une sorte de tolérance, puisque Altona, qui est un quartier, qui était un petit village, une ville à côté de Hambourg, était sous la domination danoise. Donc le but du jeu, quand vous étiez un peu trop mal en cours avec les pasteurs de Hambourg, et c'est arrivé très souvent, souvenez-vous au XVIIIe siècle, le cas de Lessing et de tant d'autres, à ce moment-là, vous faisiez publier vos livres à Altona, c'est-à-dire à la rue d'à côté, sous la protection, avec une recommandation des Danois. Et donc, on voit bien que cette tradition de tolérance était aussi quelque chose que Oppert avait, dans laquelle Oppert avait vécu, même s'il est parti très tôt, effectivement. Après, comme vous savez, il a continué de garder ses contacts avec sa ville natale, et donc là, il a pu en profiter. L'autre cas, c'est d'ailleurs Francfort. Francfort, c'est aussi une ville de commerçants, c'est aussi une ville où les universités sont très récentes, mais du coup, c'est une ville où, par le système des fondations, ça s'appelait Stiftungsuniversität, on avait des chaires un tout petit peu plus osées qu'à Berlin ou à Göttingen ou à Tübingen, où alors là, c'était la plupart du temps extrêmement conservateur, et l'idée d'avoir une autre science, l'idée en plus de nommer un juif qui fasse une nouvelle science, il écrit bien dans sa présentation au Collège de France, on voit ça dans les archives ici, il sait très bien que c'est une nouvelle science, quoi. Donc c'est quand même très intéressant de voir comment il avait formulé sa demande. Alors, donc, en conclusion, je voulais justement vous signaler ce qu'on ne voit pas assez, ce qu'on signale pas assez, cette générosité intellectuelle de certaines institutions françaises qui ont surtout été intéressées à la société asiatique, par exemple. La société asiatique, qui a été fondée d'ailleurs aussi sous l'entremise d'un des frères Humboldt, et qui a pendant très longtemps a eu comme grande personnalité Mohl. Et Mohl, qui vient lui de Tübingen et qui est un Allemand qui fait les rapports annuels. En plus, ce sont des gens, c'est pas comme les Français, de toute façon, des gens sérieux, ils font les rapports quand on les demande, on leur demande de faire des choses impossibles. 30 ans d'assyriologie en France, donc les types s'assoient, s'y collent et le font comme ça, ganz brave. Et alors les Français, c'est assez rare, j'exagère un peu évidemment, mais c'est assez rare que les Français arrivent à faire ça. Donc à l'école pratique de hautes études et donc dans d'autres endroits, par exemple, on a eu un colloque qui est publié, l'école normale supérieure et l'Allemagne, qui est publié par mon ami Michel Espagne, et c'est aussi très intéressant parce qu'on pense qu'à l'école normale supérieure, c'est vraiment le centre du centre, c'est Rome, c'est le Sinaï, c'est vraiment. Puis tout d'un coup, vous regardez le nom des, par exemple, des profs de grec qui viennent parfois directement de Berlin, pour le grec, pas pour les neurosciences ou quelque chose comme ça, pour vraiment ce qui est le plus fondamental et ce qui assure, si je puis dire, la transmission. Donc à la fin, on a plutôt une impression positive, même si parfois il y a des imitations de son accent allemand qu'il avait manifestement eu du mal à abandonner, même si parfois on a l'impression d'un côté un peu rugueux de ces transferts culturels. Ce qui est important, c'est qu'ils ont existé, et je pense que cette faculté et cette facilité d'accueil restent, comme vous le savez, d'une brûlante actualité. Je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.